RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Retour dans Mardi politique sur France 24 et RFI avec Frédéric Rivière. Je salue notre deuxième invitée, elle fut garde des Sceaux, c'est elle qui s'est battue et qui a fait voter le mariage pour tous. Elle a quitté le gouvernement Valls sur un désaccord majeur, la déchéance de nationalité. Elle a repris son vélo et soutient aujourd'hui Benoît Hamon, le candidat socialiste. Bonsoir Christiane Taubira.
Bonsoir madame.
Et merci d'être là avec nous sur ce plateau. Alors Christiane Taubira, vous avez été députée de Guyane de 93 à 2002, vous y êtes née. Ce département d'outre-mer vit une crise majeure, manifestation, barrage, blocage. François Hollande vient d'envoyer une lettre aux élus du département pour réclamer la fin des barrages. Réclamez-vous la même chose ?
Non, je n'ai pas à réclamer la fin des barrages. Ce mouvement a une direction, des collectifs qui sont constitués en délégation pour discuter avec les représentants de l'État. Je n'ai pas à m'immiscer dans l'appréciation des choses. Évidemment, j'ai mal au cœur pour les enfants qui ne vont pas à l'école. Je suis préoccupée pour les élèves de terminale qui auront certainement quelques difficultés pour le baccalauréat. Je m'interroge évidemment sur les étudiants, mais c'est le lot de tout mouvement social. Et j'estime que c'est à eux qu'il revient d'apprécier les choses. J'espère que cela se fait de façon suffisamment démocratique pour qu'ils soient en mesure de décider si, par rapport à ce qu'ils ont obtenu, il y a lieu de mettre un terme à ce mouvement.
Ils demandent plus. Alors le fond du problème, pour qu'on comprenne un peu et connaître votre analyse, le fond du problème, c'est quand même le sous-développement, un manque d'investissement de l'État. L'État ne suit pas. Pourquoi l'économie locale ne décolle pas, les salaires et les coûts sont beaucoup trop chers? Pourquoi il n'y a pas de capitalisme local? C'est le problème de la Guyane aujourd'hui. Et la vie est très chère.
Alors,
comment
il y a,
tuer ce cercle?
Il y a des responsabilités qui incombent au pouvoir public, que ce soit l'État central, mais aussi les autorités collectives, territoriales. Nous avons une seule collectivité territoriale actuellement. Donc il y a de toute façon un sous-équipement général. Il y a une insuffisance des services publics en matière d'éducation, en matière de santé. Donc il y a effectivement des efforts considérables à faire, pas simplement au fil de l'eau. Il y a donc des responsabilités multiples, y compris sur la diversité des activités économiques, sur l'enclavement du territoire, donc des ruptures d'égalité entre certaines villes et certaines communes rurales. Donc il y a toute une série de problèmes qui nourrissent les difficultés quotidiennes pour les gens. Il y a une insuffisante prise en charge de la jeunesse qui est importante en nombre, qui est vive, donc capable d'être formé, d'être éduqué, d'inventer, donc d'avoir un avenir, et qui pourtant est frappé, cette jeunesse, d'un chômage à 50%, c'est-à-dire qu'un jeune sur deux, non seulement n'est pas sûr de trouver un emploi, mais absolument sûr de ne pas en trouver. Donc c'est une situation absolument explosive, et ça explique cette mobilisation très forte et très belle, en fait, à savoir que les gens savent qu'ils se battent pour l'avenir, et qu'ils revendiquent des choses qui sont tout à fait justes. Or, derrière ça s'entrecroisent aussi des intérêts économiques particuliers, des calculs politiques aussi, mais tout ça c'est secondaire, ça ne doit pas servir de diversion. L'essentiel c'est vraiment cette mobilisation générale, parce que les gens savent que en matière d'éducation, en matière de santé, en matière d'accès aux droits, en matière de liberté de circulation, de mobilité sur le territoire, ils ont le droit effectivement de revendiquer une mise à niveau.
Puisque vous connaissez très bien la Guyane, Christiane Taubira, est-ce que vous pourriez vous engager pour tenter de dénouer ce conflit? Est-ce que vous pourriez être médiatrice si, par exemple, François Hollande vous le demandait?
Alors, je n'envisage jamais de m'imposer dans une situation,
non, mais
bien
je
entendu.
Lance l'idée,
J'étais sur place durant la première semaine. Je me suis moi-même déplacée d'ailleurs sur plusieurs barrages. J'ai rencontré les gens. Je leur ai parlé. Maintenant, il y a un collectif qui dirige ce mouvement. Alors, un collectif composite, parce que c'est quand même un mouvement assez étonnant en soi, même si ce n'est pas la première fois que nous sommes confrontés à ça. En 1992 aussi, nous avions un mouvement avec un collectif dirigeant qui était composé à la fois de travailleurs, former des patrons, des chefs d'entreprise qui mettaient leur logistique à disposition pour les barrages, des personnels de collectivités. Donc, il y a forcément des contradictions. C'est pour ça qu'il y a des périodes de tension. Mmh. Il y a des contradictions parce qu'il y a des intérêts divergents. Donc, sur les services publics, évidemment, tout le monde peut se retrouver. Mais puisqu'il y a des revendications catégorielles, c'est plus compliqué. Lorsqu'il y a nécessité d'un médiateur, c'est aux deux parties de concevoir et de choisir et de définir un médiateur. Donc de vouloir déjà une médiation.
Le collectif des 500 frères, qu'on a beaucoup vu, puisqu'ils frappent les esprits avec leur tenue noire et leur cagoule, dénonce l'insécurité, la délinquance, et établit un lien de cause à effet entre ces problèmes et l'immigration venue en particulier du Suriname et du Brésil. Mmh. Est-ce que vous êtes d'accord avec le collectif sur ce point ?
Non, le lien est une erreur. L'insécurité est réelle. Elle est réelle. Une cinquantaine d'homicides en Guyane, 250 000 habitants, c'est pratiquement un homicide par semaine, c'est effrayant. C'est absolument effrayant. Il y a une violence gratuite. Il y a la preuve là d'une déshérence. Il y a vraiment des attitudes de violence gratuite, extrême, une circulation d'armes, un sentiment de vulnérabilité collective qui n'est pas juste un sentiment, qui s'appuie sur une réalité de crimes d'homicide qui sont ainsi fréquents. Mmh. Maintenant, le lien avec l'immigration est une erreur. D'abord parce que la Guyane est en Amérique du Sud, que c'est un lieu de circulation humaine, cela est historique, que nous sommes séparés de nos pays voisins, le Brésil et le Suriname, par des centaines de kilomètres de fleuves, des centaines en longueur, mais des fleuves avec la largeur de fleuves. Donc ce sont des lieux de circulation, et il nous faut penser notre présence dans le bassin sud-américain, avec la prise en charge de nos territoires. Il y a quand même 9 pays qui se partagent l'Amazonie, donc 8 en plus de la Guyane. Nous avons des eaux territoriale commune. Nous avons un océan que nous partageons avec le Brésil, le Suriname, le Guyana et même le Venezuela. Donc il faut penser notre lieu et notre capacité à vivre dans ce lieu. Donc il y a effectivement une réalité de circulation de personnes qui viennent aussi de la Caraïbe, mais il y a aussi des personnes qui viennent de la Syrie. Donc il y a une réalité de migration en Guyane, et ça c'est historique. Il y a évidemment des pressions très fortes, donc qui sont visibles et qui sont difficiles à supporter. Alors, il y a de la délinquance chez les immigrés, mais on ne peut pas faire l'équation criminalité-immigration.
Christiane Taubira, on va parler de politique, puisque ça vous intéresse aussi au plus haut point. Donc vous soutenez Benoît Hamon, donc le candidat socialiste, qui est à 9 points, voire 10 points dans les sondages. D'abord Edoune, comment vous l'expliquez? Est-ce que vous êtes déçu par l'homme et sa campagne, ou
non,
les deux bons capitaines?
Je ne suis absolument pas déçu par l'homme et sa campagne, parce que Benoît Hamon fait une belle campagne. Il fait une belle campagne sur une vision de la société, sur une compréhension de l'Union européenne et de son utilité, et surtout en plus de l'ardeur qu'il faut lui insuffler, sur une compréhension, une perception de l'état du monde et des grands bouleversements. Donc il a compris les bouleversements économiques, il a compris le défaut d'anticipation sur des dizaines d'années, sur les mutations économiques qui sont en cours et leurs effets parfois désastreux sur les personnes qui travaillent dans des filières économiques qui sont devenues obsolètes et qui n'ont pas été convertis à temps. Il a compris l'émergence des nouvelles économies, donc l'économie numérique, l'économie collaborative, l'économie circulaire. Mmh. Il a compris tout ça et il ose dire que ces mutations-là vont se poursuivre, elles vont s'approfondir. Il faut les neutraliser quand c'est nécessaire. Il faut les accompagner quand il faut. Il faut saisir les nouvelles précarités et concevoir.
Alors il a compris, mais il n'est pas compris.
De nouvelles solidarités. Il explique.
Il a compris, mais il n'est pas compris. Si on
campagne,
voit les sondages.
Je ne dirais pas les choses ainsi, mais oui. Bon, en tout cas, non. Mais cette campagne, elle est
folle.
Oui.
Et elle n'est pas finie.
En tout cas, elle désoriente. Elle désoriente. D'abord, elle a été terriblement polluée parce que la campagne a été beaucoup plus judiciaire que politique pendant longtemps. Il est difficile de faire percer les idées, de montrer la cohérence d'un projet. Donc, il fait une campagne. Il l'a fait avec beaucoup de courage. Il affronte la difficulté d'être obligé de répondre tous les jours à des sondages, alors que moi, je crois beaucoup plus au suffrage universel. Et je rencontre les militants. Je vais sur le terrain. Je vais convaincre des personnes qui s'interrogent parce que je crois que c'est
vous
comme ça qu'on fait une campagne.
Parmi les explications des difficultés de sa campagne, Benoît Hamon a évoqué hier matin le bilan du quinquennat de François Hollande. Est-ce que vous seriez solidaire de ce reproche?
Non, je ne pense pas que ce soit juste, parce que c'est une législature pendant laquelle un certain nombre de choses ont été faites, importantes. Des choses ont été faites qui n'étaient pas prévues et qui nous ont nous-mêmes un peu surpris. Des choses ont été faites un peu à moitié, des choses qui n'étaient pas à faire ont été envisagées à faire. Donc il y a des critiques à porter, comme oui. sur toute législature.
Mais il a tort d'incriminer le bilan de François Hollande
oui,
comme
crois,
responsable
crois,
de ces difficultés.
Crois. En matière d'éducation, oui. par exemple, les engagements du président ont été tenus. Ils ont été vraiment tenus. Le rétablissement de la formation des enseignants, la refondation de l'école, l'importance de l'enseignement primaire, la charte de la laïcité, mais surtout le recrutement de plus de 60 000 enseignants. Donc les engagements du président ont été tenus. En matière de santé, le tiers payant généralisé, en matière de solidarité, la retraite à 60 ans pour les longues carrières, en matière d'accès aux droits, nous avons maillé la totalité du territoire. Donc il y a des tas de choses, de lutte contre la pauvreté, c'est insuffisant, mais des actions ont été engagées, pour la cohésion sociale. Donc il y a, non, ce quinquennat n'est pas à jeter, heureusement, et au contraire, il faut rappeler ce qui a été fait de façon à ce que les citoyens les aient en tête et ne laissent pas reprendre des conquêtes sociales.
Alors, si d'aventure, Benoît Hamon n'était pas présent au second tour, que c'était Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous appelleriez, au moment du second tour, est-ce que vous soutiendriez Mélenchon ?
Je suis juste désolée de vous contrarier, parce qu'en plus vous êtes profondément sympathique et extrêmement professionnel.
Merci.
Mais je refuse de raisonner de cette façon. Je fais la campagne jusqu'au dernier jour.
Je comprends.
Et je continuerai à la faire jusqu'au dernier jour.
Mais lui-même a répondu à cette question.
Mais c'est son affaire.
Mais il a répondu. C'est le candidat. Lui, il a dit, si jamais je n'y suis pas, je voterai Mélenchon.
Mais oui, et moi, je vous maintiens que je
voterai Mélenchon. Non, mais j'entends bien.
Marine Le Pen. Marine Le Pen, qui n'a pas l'habitude, de dérapage, comme son père l'avait, elle a pourtant déclenché une polémique en déclarant ceci. On l'écoute.
La France n'est pas responsable du Veldiv. Voilà. Je pense que de manière générale, plus généralement d'ailleurs, s'il y a des responsables, c'est ceux qui étaient au pouvoir à l'époque. Hein. C'est pas la France.
Alors dans le fond, elle prend l'argument de Gaulle, qui disait que c'était Vichy et que Vichy n'est pas la France. Mais Jacques Chirac, en 95, impose la vérité historique sur les valeurs, sur la morale. Ce jour-là, la France a commis l'irréparable, avait-il dit en 95, donc sur la rafle du Veldiv. Comment regardez-vous cette réponse de Marine Le Pen ? Est-ce qu'on lui fait un mauvais procès ou c'est un dérapage ?
En tout cas, je ne confonds pas Madame Le Pen avec Monsieur de Gaulle, ni avec Monsieur Chirac, d'une part. D'autre part. Donc, pour moi, c'est une parole d'une autre nature. Mais en plus, c'est une parole intéressante, parce qu'elle rappelle effectivement que les forces de la police d'État, parce qu'à l'époque, quand même, à l'époque, il y a des lois racistes, il y a des lois anti-juives, il y a allégeance au chef de l'État et non pas à la République, il y a obligation pour les fonctionnaires d'aller à la messe. Il y a donc toute une série d'exceptions à l'État de droit. Et il faut rappeler que la police, qui est contrainte à être une police d'État et non pas être une police républicaine, qui va exécuter les ordres de rafle du Veldiv, a eu des supplétifs. Et parmi ces supplétifs, il y avait les gros bras du Parti populaire français. Et ces gros bras du Parti populaire français appartenaient donc à un parti dont le secrétaire général a été quelques années après numéro 2 du Front National. Donc effectivement, la parole de Madame Le Pen est intéressante parce qu'elle rappelle quand même qu'à cette époque-là, il y a effectivement un pouvoir d'État qui n'est pas un pouvoir républicain, qu'il y a effectivement une résistance avec des femmes, des hommes, y compris des femmes et des hommes venus d'ailleurs, je pense aux républicains espagnols par exemple, aux exilés, donc des femmes, des hommes, des Français, de gauche, de droite aussi, du centre forcément, et puis même quelques-uns nationalistes qui sont pris par une fibre patriotique plus que nationaliste à ce moment-là. Mais il y a effectivement cette extrême droite collaborationniste, il y a effectivement cette extrême droite qui participe, notamment ses membres du Parti populaire français, à la rafle du Veldiv aux côtés. Ce sont des éléments établis par des historiens. Donc moi, je trouve que de ce point de vue, cette parole est tout à fait intéressante parce que moi, je ne l'apprécie pas parce que je ne tiens pas Madame Le Pen comme une personne qui a fait allégeance à la République. Je crois qu'il y a une instrumentalisation de la République, comme il y a une instrumentalisation chez elle de la laïcité. Mais je pense que justement, le fond de ce parti, sa nature profonde, surgit en certaines circonstances. Et moi, je me réjouis qu'elle rappelle justement que l'extrême droite était là, dans cette place-là, et non pas dans la résistance, à quelques exceptions près.
Est-ce que la question, ça n'est pas aussi de savoir ce qu'on entend par ce terme « la France » quand on parle de la responsabilité dans le Veldiv? Qu'est-ce que c'est que la France? Est-ce que c'est l'ensemble des Français qui constituent la France? Et au fond, donc, est-ce qu'aujourd'hui, chaque Français doit se sentir une part de responsabilité historique dans ces événements tragiques, un peu à la manière de la notion du péché originel en religion.
Non, la question n'est pas de culpabiliser chaque Français. La question est d'avoir le courage de faire face aux événements qui ont contribué à façonner la communauté nationale. Donc à ce moment-là, oui, il y a des décisions qui sont prises et qui sont absolument monstrueuses. Mais c'est notre histoire, nous devons la porter. Nous devons la porter avec lucidité et courage. Et non pas avec ces petits arrangements, avec ces petits arrangements avec l'histoire, avec ces petites polémiques calculées pour la campagne électorale. Non, nous devons assumer. Nous devons assumer toute l'histoire. Parce que cette histoire, elle forge notre identité. Elle forge surtout notre cohésion. Donc il ne s'agit pas de dire à chaque Français qu'il doit avoir honte. Les résistants portent cette histoire aussi. Ils portent l'histoire de leur résistance. Ils portent l'histoire de leur courage personnel. Mais ils portent l'histoire de la France. Donc la question, c'est ce gouvernement, je viens de dire que ce n'était pas un État républicain, c'était un pouvoir d'État, qui avait quand même obtenu les pleins pouvoirs, pas pour faire que ça d'ailleurs, il avait obtenu les pleins pouvoirs pour élaborer une constitution, ce qu'il n'a pas fait. Mais voilà, c'est un pouvoir d'État, c'est la réalité de la France. Et il vaut mieux l'affronter, parce que c'est ça qui nous rend plus forts.
Et quand Macron va en Algérie, il parle de crimes contre l'humanité sur la colonisation, est-ce que là, l'instrumentalisation de l'histoire et de la politique fait quand même bon ménage? Est-ce que c'est le moment de ressortir toutes ces choses-là, ou c'est par pur électoralisme? Notamment peut-être Macron, est-ce que c'était une manière d'avoir de son côté un vote d'une communauté, on va dire?
En tout cas, c'est d'autant plus étonnant qu'il le dit en tant que candidat à l'élection présidentielle, il ne dit pas ce qu'il ferait s'il était élu. Donc porter une notion aussi lourde, c'est une notion absolue de crime contre l'humanité.
On met la France devant la Cour pénale internationale.
Ou on dit, je soumettrai au Parlement un projet de loi pour reconnaître ce crime contre l'humanité, parce que le crime contre l'humanité est imprescriptible. C'est inscrit dans notre droit pénal, c'est inscrit également dans le droit juridique international. Donc cette parole aurait un sens si, en prolongement de cette parole, il disait, moi, candidat, si je suis élu président, voilà ce que je ferai. Ensuite, la notion de crime contre l'humanité est une notion absolue. Donc, quand le lendemain matin, il se précipite pour expliquer aux pieds noirs qu'il les aime et que, finalement, il introduit des nuances, on est un peu perplexe face à une telle déclaration.
Pour en revenir un instant au Front National, vous avez qualifié le vote Front National chez les jeunes de déviance. Est-ce que ça n'est pas un peu curieux quand on sait à quel point vous attachez de l'importance aux mots, que vous ayez employé ce terme-là quand on sait qu'il était utilisé par certains à une époque et sans doute encore parfois aujourd'hui pour parler des homosexuels, pour parler de l'homosexualité?
Non, mais c'est pas parce qu'on a insulté les homosexuels de déviance que le mot déviance ne prend plus que ce sens-là.
Oui, mais vous savez très bien ce que veut dire déviance, c'est qui quitte la voie, qui sort de la route qui est tracée pour lui.
J'ai expliqué avant de dire que pour moi c'était une déviance, j'ai expliqué pourquoi. Je dis qu'en général, la jeunesse, c'est un âge où on est très ouvert sur les autres, où on pense qu'on va transformer le monde sans même tenir compte de ses inerties, de ses pesanteurs, des différents intérêts. Que la jeunesse, c'est ça. Et qu'en plus, à notre époque, la jeunesse est ouverte sur le monde parce que elle vit en présence du monde et avec la conscience de cette présence du monde. Et que moi, les jeunes que je fréquente, en général, sont des gens qui ont ces élans-là. Et que les jeunes qui arrivent à se laisser embrigader par un parti qui professe le repli sur soi, le rejet des autres, qui n'offre aucune solution à aucun problème, mais toujours systématiquement un bouc émissaire, je dis que lorsque les jeunes se laissent embrigader par ce parti-là, oui, c'est une déviance pour moi, par rapport à la vision que j'ai de la jeunesse. Donc je ne suis pas en train de dire que c'est une pathologie. Je ne suis pas en train de reconvertir un terme qui a été utilisé comme une injure, comme une insulte. Je dis que voilà, les tendances lourdes de la jeunesse, c'est ça. Il y a toujours eu des minorités de jeunes très réactionnaires, très conservatrices, qui d'ailleurs souvent sont sous l'influence d'une famille ou d'une proximité quelconque, mais généralement c'est marginal. Donc, alors que la question qui m'a été posée par cet étudiant, c'était comment vous expliquer que la majorité des jeunes qui s'engagent au Front National.
Merci Christiane Taubira, c'est la fin de cette émission et Mardi Politique revient mardi prochain.
Merci Christiane Taubira et merci à vous.